Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pont pour la chronique auto. Nous allons parler d'une voiture qui a révolutionné le monde de l'automobile, je veux dire la Citroën DS. Présentée au Salon de Paris en octobre 1955, la foule se presse pour l'apercevoir.
Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS 19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique, vaste main arrière, plus de pédales d'embrayage, volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales.
750 bons de commande sont signés dès la première heure et 12 000 au terme de la première journée. Cet engouement est notamment dû à sa ligne futuriste. Avec son aspect allongé et aplati, son importante surface vitrée, son pare-brise incurvé et son capot plongeant. C'est l'œuvre de l'Italien Flamino Bertoni. Il avait également dessiné la Citroën de chevaux. Au-delà de sa ligne, la DS innove dans bien des domaines. Il faut dire que Citroën a pris le temps. En effet, elle était destinée à remplacer la traction avant, mais cette dernière, compte tenu de son prix et de son habitabilité, continuait à bien se vendre. La DS est véritablement née avant la guerre, sous le nom de projet VGD, véhicule de grande diffusion. Ce projet avait été confié en 1938 à l'ingénieur André Lefebvre, secondé par Bertoni et par le motoriste Walter Becker. Ce dernier avait imaginé un moteur à plat, comme pour la 2 chevaux, mais doté de 6 cylindres. Le projet n'aboutira pas, faute de place sous le capot. Même chose pour le refroidissement par air, qui engendrait des problèmes de surchauffe en montagne. C'est finalement le moteur de la traction avant qui sera repris et amélioré. Ce moteur, s'il était moderne à sa sortie, commence sérieusement à accuser le poids des années. Et ce sera en effet le point faible de la voiture durant presque toute sa carrière. Poursuivie dans le plus grand secret pendant l'occupation allemande, la gestation de la DS respecte à la lettre le mot d'ordre fixé par Pierre Boulanger, patron de Citroën. Étudiez tout, même ce qui est déraisonnable. Les ingénieurs s'en sont donnés à cœur joie. Avec son châssis coque, son capot plongeant, sa suspension hydropneumatique, son pare-brise panoramique, sa planche de bord futuriste et son volant monobranche. La suspension est révolutionnaire. Plus de ressorts en acier, mais des sphères dans lesquelles de l'huile sous pression vient comprimer de l'azote. Outre un très grand confort, le système permet de compenser la charge et offre une excellente tenue de route. Une publicité de l'époque vante ses mérites.
L'élasticité de l'air et la souplesse de l'eau sont associés pour votre confort dans la suspension hydropneumatique Citroën. Chaque roue est reliée à la caisse par un piston. Ce piston agit sur un liquide qui comprime un gaz contenu dans une sphère de suspension. Le jeu contraire de ces éléments maintient la carrosserie toujours horizontale.
Sa mise au point a été longue et coûteuse. Elle fut d'abord testée sur les roues arrière de la traction avant à partir de 1954. Le système présente toutefois quelques inconvénients. Il est lourd et encombrant avec des dizaines de mètres de tuyaux. Et l'effet de roulis qu'il génère, combiné au manque d'aération de l'habitacle, peut donner le mal de mer aux passagers. Le système haute pression de la suspension permet également d'alimenter une direction assistée, un servo-frein et un embrayage automatique. Les vitesses se changent au moyen d'un petit levier situé derrière le volant, qui sert également de démarreur. Il suffit à ce moment-là de le pousser à fond vers la gauche. Il n'y a donc plus de pédale d'embrayage et celle des freins est remplacée par un curieux bouton. Le tableau de bord est futuriste et très épuré. Il se compose d'un bourrelet qui s'épaissit progressivement vers le conducteur et d'où semble jaillir la branche unique du volant. Au-dessus, les compteurs sont horizontaux, en retrait de la surface et de petite dimension. Côté passager, le couvercle de la boîte à gants occupe tout l'espace jusqu'au pare-brise et jusqu'à la bouche de ventilation à droite. L'intérieur est très lumineux et la visibilité est excellente grâce au montant de pare-brise très fin. Les fauteuils surprennent par leur épaisseur. Si le confort est bien présent, la conduite demande une certaine accoutumance. En effet, la direction assistée, très sensible, peut se révéler dangereuse à grande vitesse. Même chose pour les freins, qui ont tendance à envoyer les passagers dans le pare-brise. La tenue de route était excellente, mais rattraper un dérapage était problématique du fait du poids sur l'avant, presque le double de l'arrière. Il y avait effectivement le poids du moteur, plus le système hydraulique, la roue de secours, curieusement placée en avant du radiateur, et même le pot d'échappement. Autre bémol, les essuie-glaces qui ne balayaient pas le milieu du pare-brise. À son lancement, les problèmes de fiabilité furent légion, on en dénombra plus de 200. Pour reconquérir la clientèle quelque peu refroidie, Citroën va lancer en 1956 l'idée 19. L'idée 19 est une version au rabais, qui perd nombre d'équipements dont l'embrayage automatique et les freins assistés. Le chauffage n'a plus de ventilateur et ne fonctionne que du côté conducteur. Il n'y a pas de lave-glace et l'essuie-glace ne revient pas en position basse. Le seul point positif, c'est le tableau de bord de meilleure qualité. Puis, les versions s'enchaînent. En 1958, présentation du prototype de la version break au salon de l'auto et le modèle définitif un an après. Il existe une version familiale, chose rare à l'époque. Le confort et la charge utile du break feront le bonheur des ambulanciers, mais aussi des stations de radio et de télévision. Seul reproche, un prix élevé par rapport à une concurrence plus rustique, mais bien moins chère. Le cabriolet, carrossé par chaperon, sera présenté pour la première fois en 1958 et entrera officiellement dans la gamme Citroën un an après. Parallèlement, Chaperon, l'un des derniers carrossiers français, va proposer nombre de versions coupées et limousines de la DS. La DS va évoluer durant ses 20 ans de carrière, à commencer par le moteur, gros point faible de la voiture. L'Autojournal titrait à sa sortie « Une voiture révolutionnaire avec un vieux moteur ». De 1,9 litre, il passe à 2 litres et 2,2 litres en 1965, soit 10 ans après sa sortie. Le 2,2 litres déçoit, il vibre, il est bruyant à haut régime et son rendement est en dessous de la moyenne. Citroën, collaborant avec Maserati, la presse spécialisée se prend à rêver d'un moteur Maserati qui hélas ne viendra jamais. En 1968, le moteur va être proposé avec l'injection électronique, c'est une première en France. C'est aussi l'arrivée des 4 phares carénés dont 2 directionnels. En 1973, à 2 ans de la fin de sa carrière, arrive le moteur 2,3 litres proposé en version carburateur et injection. En injection, il développe 141 chevaux pour une vitesse de pointe de 180 km/h. Ironie du sort, cette même année, la vitesse va être limitée à 100 km/h sur route. On écoute les informations de l'époque.
L'ouverture du salon de l'automobile est encore loin, mais déjà certaines marques dévoilent leur modèle 1973. Chez Citroën, par exemple, la carrosserie ne change pas, mais les innovations sont mécaniques, comme vous allez le voir.
Oui, vu de l'extérieur, il est difficile de reconnaître les nouvelles DS, car seuls les moteurs et des détails mineurs ont changé. Mais toute la gamme gagne en puissance. Ici, la DS23 qui remplace la 21. Plus nerveuse que l'ancienne, elle est aussi plus rapide avec 188 km/h. Mais il semble paradoxal de construire des voitures de plus en plus puissantes au moment où la vitesse est limitée. Les constructeurs s'en défendent.
En ce qui concerne la DS23, comme toute la gamme de DS d'ailleurs, c'est d'abord des reprises améliorées. Et ça, c'est une sécurité certaine que de pouvoir avoir un coup d'accélération, quelle que soit la vitesse où on se trouve, le rapport de vitesse, au moment où on veut doubler par exemple. Et enfin, il y a les autoroutes et puis il y a des voitures que nous devons vendre, pas seulement en France, mais dans tous les pays du monde. Et il est très important que nous soyons compétitifs. Ce qui est dangereux, c'est de rouler trop vite là où on ne peut pas le faire. Mais partout où c'est possible, c'est tout à... au contraire, c'est une sécurité et c'est une augmentation de la fluidité du trafic qui dégage les routes le plus vite possible.
Malgré ses défauts de jeunesse, la DS aura eu une brillante carrière. Elle fut la voiture des artistes, des PDG et même celle du chef de l'État. Le 24 avril 1975, la dernière DS, une 23 à injection de couleur bleu Delta, quitte l'usine du Quai de Javel après presque 1,5 million d'exemplaires. Le lendemain, le chanteur Mike Brandt se suicide à Paris. Les Français pleurent le chanteur, la DS disparaît dans l'anonymat. La DS n'attire plus les clients, les derniers exemplaires traînent plusieurs mois sur des terrains vagues avant de trouver preneur. Exposée aux intempéries, elle rouillait sur place et les herbes folles poussaient dans les capots moteurs. Une triste fin. Ainsi se termine cette chronique auto. Bonne journée à tous sur Radio.